France Inter. L'écrivaine et journaliste littéraire Stéphanie Hochet signe une œuvre singulière et primée, ce qui montre que le mérite peut payer, réjouissons-nous. Autrice du roman western Combat de l'amour et de la faim, de Pacifique, roman consacré aux derniers jours d'un jeune kamikaze japonais avant son suicide en 1945, ou encore d'une biographie romancée de Shakespeare dont elle imagine la vie entre 1585 et 1592, entrecoupée de réflexions personnelles. Elle a aussi publié Sang d'encre, Éloge du chat, un roman anglais, et L'animal et son biographe. Si j'étais une intelligence artificielle, je pourrais déjà détacher des mots caractérisant ses centres d'intérêt à travers ses simples titres, le sang, les animaux, l'Angleterre, la littérature. Or, il se trouve que je suis comme vous, une intelligence naturelle, j'ai donc beaucoup de limites, mais je lis les livres, par conséquent, je peux vous parler du contenu du dernier récit de l'écrivaine qui inspira le personnage de Petronie à Amélie Nothomb, Armure, paru chez Rivage, récit qui s'intéresse, comme le Gilet Jaune de Michel Tournier, aux figures de Jeanne d'Arc et de Gilles de Rais, sataniste mis en scène par Huysmans dans son roman Là-bas, et qui fut aussi le compagnon d'armes de la première. Ces deux individus symbolisant respectivement la sainteté et le mal absolu, mais est-ce aussi simple? La réponse est évidemment négative, nous y reviendrons. Si le sujet est le même que celui de Tournier, le traitement est parfaitement original puisque les vies intérieures reconstituées des deux figures historiques sont l'occasion de s'interroger sur la violence et la pluralité des champs dans lesquels elles s'illustrent. Comme dans son précédent ouvrage William, Stéphanie Hochet émaille le texte de réflexions personnelles et d'anecdotes autobiographiques qui rejoignent la quête de tous les êtres apparaissant dans le livre « L'émancipation ». Bonsoir et bienvenue dans la 20e heure.
France Inter, la 20e heure, Eva Bester.
Bonsoir Stéphanie Hochet.
Bonsoir Eva Bester.
Quelle est la dernière chose qui vous a enthousiasmée ?
J'ai rencontré deux personnes, deux écrivains qui seront sans doute bientôt des amis. La première s'appelle Eve Guerra et l'autre Elios Azoulay. Donc j'ai rencontré des gens super.
Comment ça se passe les rapports entre écrivains? Est-ce qu'il y a des, comme dans tous les métiers, oui, vous savez où je veux en venir?
Des jalousies, des choses comme ça, oui.
Bah oui, j'imagine.
Il y en a, bien sûr. Parfois, on ne les voit pas naître tout de suite. Parfois, on les découvre. J'ai envie de dire que tout le monde peut être jaloux, en fait. C'est un peu un combat intérieur. Après, il y a des natures très jalouses. Et c'est normal de l'être quand on est en compétition un peu au même moment, si on sort nos livres au même moment. Mais ce serait quand même dommage de ne pas rencontrer des gens qui écrivent des œuvres intéressantes. Et puis, on a tellement en commun aussi. Donc, j'ai quand même quelques amis écrivains, ça me fait plaisir.
Vous dites que petite, comme les chats, vous grimpiez aux arbres pour esquiver chez vous les invités dont vous aviez horreur.
En tout cas, j'avais deux cerisiers dans notre jardin, enfin dans le jardin de mes parents.
C'était Anthony ?
Anthony, ouais. Et j'adorais grimper dans les cerisiers, ce qui fait que c'est l'arbre que je reconnais le mieux. Je reconnais parfaitement un tronc de cerisier. Et effectivement, j'étais comme les chats. Mais je me suis longtemps comparée aux chats, en fait. Je me suis longtemps vue comme un chat.
Vous avez écrit sur le sujet.
Ouais, Éloge du chat, qui est le livre qui a le mieux marché jusqu'à présent.
Je crois que les chats sont très appréciés depuis la nuit des temps.
Depuis pas si longtemps que ça en Europe. Parce que bon, ils ont quand même eu leur période difficile quand ils ont été associés aux sorcières. Donc, vers la Renaissance.
Hein. On les a utilisés aussi dans des guerres en première ligne sur des armures.
Oui, c'est ça. Ça nous renvoie à notre livre, là. Mais, Il y aurait beaucoup de choses à dire sur le chat, mais j'adore que ce soit l'animal qui puisse dire merde, en fait, et qui puisse refuser la caresse, etc.
Noble, le chat, il peut même faire de nous des victimes, parfois.
Ah oui, je trouve ça passionnant. Et puis, il est aussi très sensible aux compliments. Ouais, moi, j'adore voir un chat que je ne connais pas et le flatter. Là, je sais qu'il prend du plaisir parce que je dis qu'il est beau. Il comprend tout de suite.
C'est vrai?
Ouais, ça marche très bien. Vous devriez essayer.
Oui, je vais essayer, d'accord. Vous aviez des parents communistes et vous alliez tous les ans à la fête de l'UMA et en colonie de vacances, en République démocratique allemande à 14 ans, été 89.
Ah, mais vous savez tout.
Bah, bien sûr, parce que je suis détective, mais je voudrais des souvenirs de cette période.
Mais c'est un grand moment. En plus, je pense que je vais écrire dessus sur la RDA. Ça a été vraiment un grand choc dans ma vie d'aller en RDA à 14 ans avec un groupe d'adolescents, plus âgés que moi d'ailleurs. Parce que ce voyage vers l'Est et ce voyage dans ce pays communiste avec le rideau de fer, c'était quand même une expérience. C'est-à-dire que on voyageait non seulement en géographie, mais on voyageait aussi dans l'histoire. On a vraiment l'impression de revenir à une autre époque que je n'avais jamais connue. Et en fait, j'ai adoré. J'ai adoré les gens. Je parlais quand même assez bien allemand à l'époque. J'étais assez précoce sur la langue allemande. J'étais assez douée. Et j'arrivais à beaucoup parler politique, en fait, avec les Allemands de l'Est, qui avaient généralement 16-17 ans. Mais comme j'ai été très politisée, très jeune, et que je me suis passionnée pour l'allemand, en fait, on avait des vraies discussions sur la politique. C'est ça qui est fou, quoi.
Et vous avez appris l'allemand à l'école ?
Ouais.
En LV1, 2, 3 ?
Non, c'était ma deuxième langue, quand même. Mais,
anglais en première langue ?
Anglais d'abord, et puis allemand, ouais. Je pensais que ce serait une langue qui prendrait plus d'importance un jour, et puis finalement pas.
Mais dans l'histoire de la pensée, elle en a.
Oui, voilà.
Vous avez toujours un lapin ?
J'ai un lapin, je vis avec un lapin. Je m'occupe de ce lapin depuis presque 9 ans et demi.
Vous entendez bien ?
Ah, c'est, on s'entend très 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 bien. Alors j'ai envie de dire aux gens, c'est comme un chat. Donc en fait, le lien est aussi fort qu'avec un chat. C'est très affectueux, c'est drôle, c'est très attachant. Vraiment, imaginez un chat, mais vegan. C'est ça.
Il peut vous snober aussi ?
Alors non, c'est vrai que ça, c'est typique du chat de snober. Le lapin va pas snober. Le lapin est par contre en vigilance assez constante. Donc il peut entendre, paraît-il, un bruit à 2 km. Donc, ce qui fait que parfois, il va entendre un bruit qui va le rendre nerveux. Par exemple, voilà, pour quelle raison il tape de la patte à un moment, c'est-à-dire qu'il s'énerve et il a peur, je ne sais pas. Mais lui entend un bruit qui est peut-être à 1 km. Donc, voilà.
Ah oui.
Mais par contre, si vous tapez du marteau ou si vous faites des travaux à côté de chez moi, il n'y a aucun problème. Ça ne le dérange absolument pas.
Ah oui, il est rigolo.
Oui.
Vous parlez, Stéphanie Hochet, dans L'animal et son biographe, du sentiment esthétique provoqué par l'animal chez l'homme, depuis assez longtemps d'ailleurs. Quels sont les animaux qui stimulent le plus votre sentiment esthétique ?
Alors, j'ai visité la grotte de Lascaux, donc ça m'a fait un effet fou, quoi, puisque quand on entre dans cette salle des taureaux, on découvre ces aurochs, donc c'est l'ancêtre du taureau, c'est un animal magnifique, avec des cornes en forme de lyre, et j'ai pas pu m'empêcher de penser que ce taureau, cet auroch, était un dieu à l'époque, pour qu'il puisse le représenter avec tellement de détails et tellement de précision, en utilisant aussi le relief de la roche. L'être humain n'est rien quand on entre là, c'est-à-dire le monde tourne autour de l'animal, quoi. C'est ce qui a fait que j'ai eu envie d'écrire sur les animaux en règle générale, mais je veux dire aussi sur ces animaux un peu disparus.
France Inter, Grand Canal, Eva Bester.
Stéphanie Hochet, vous avez une maîtrise sur le théâtre élisabéthain. Qu'est-ce qui vous attire dans cette période ?
Alors, c'est Shakespeare. Je l'ai étudié dès l'entrée à la fac d'anglais, donc j'avais 18 ans. Chaque année, à la Sorbonne, on étudiait à fond une œuvre de Shakespeare, donc une pièce. La première année, c'était Othello. On a étudié Beaucoup de bruit pour rien, enfin voilà. Et j'ai été absolument emballée, en fait, par tout ce que j'avais pu apprendre. Et puis, par ce monde qui était à la fois très sophistiqué et en même temps très, on va dire, il y avait tout dans ce théâtre, il y avait tous les sentiments, il y avait la jalousie, il y a l'amour, il y a la violence, il y a le sexe, il y a des paroles très délicates pour parler d'amour, il y avait absolument tout. Et j'ai découvert en plus que c'était des pièces qui étaient jouées devant le peuple, devant tout le monde, en fait.
Qui hurlait même pendant les représentations.
Ouais, ouais, hein. Il faut imaginer, après, ouais. C'est vrai que quand on découvre comment ça se passait à l'époque, pour les comédiens, ça devait être vraiment un calvaire de jouer devant des gens qui sont en train de manger, qui sont en train de parler entre eux, ou parfois qui interpellent le comédien parce qu'ils n'aiment pas sa façon de jouer, etc. Apparemment, il y avait des silences quand le comédien était excellent. Et puis ça chahutait quand un autre comédien prenait la parole et qu'il était moins bon. Enfin, ça devait être vraiment une épreuve, mais c'était vraiment on se frottait la populace, quoi. C'était voilà, il y a tout dans le théâtre de Shakespeare, mais il n'y a pas que lui, hein, à cette période-là. C'est vraiment l'âge d'or du théâtre élisabéthain. C'est une période exceptionnelle où on voit émerger des grands dramaturges, des grands poètes. À croire que la reine Élisabeth permet, et c'est sûr qu'elle permet, cette liberté dans les arts qui va durer quelques dizaines d'années et malheureusement qui va s'arrêter avec l'arrivée de Cromwell au pouvoir qui fermera les théâtres.
Oui, et pas que les théâtres. Mmh. Vous avez étudié la traduction, vous avez passé un an à Glasgow en Écosse. Mmh. Roulez-vous les R en anglais?
Ah, je fais très bien l'accent de Glasgow.
Allez-y.
Je vais me ridiculiser.
Non, mais c'est pas ça, c'est pour les meilleurs moments.
Hi girl, you wanna get in the bus? You're the most beautiful girl in the world.
C'est parfait. Je le prends pour moi, bien évidemment. Mais,
vous pouvez. Et puis, généralement, quand on monte dans le bus, c'est hi love.
C'est vrai?
Love, ouais.
Donc ah, c'est plutôt chaleureux, plus chaleureux que les chats.
Hyper chaleureux, ouais. C'est pas, ouais. Ils sont très canins. Ils sont très généreux.
Vous allez me parler, là. Ouais. Canin, j'avoue être de cette équipe. Vous avez publié William, une biographie romancée de Shakespeare. Vous imaginez sa vie de 1585 à 1592, période pour laquelle on n'a aucun élément. Mais vous avez systématiquement, même quand vous imaginez les choses, une documentation foisonnante.
Ouais. C'était très important pour moi de plonger dans une époque en ayant conscience de ce qui se passait, et c'est-à-dire en ayant le, on va dire les points essentiels pour me raccrocher à du réel, pour quand même donner à voir quelque chose de très typique de l'époque en fait, parce que ce qui m'intéresse, c'est de montrer à quel point cette époque était différente de la nôtre aussi. Donc, il faut que j'apporte des éléments. Et ce qui était passionnant avec William Shakespeare, c'est que quand on étudie sa vie, ce que je n'avais pas étudié à la faculté, ce que j'ai étudié plus tard, parce que j'ai découvert sa vie plus tard en lisant des biographies, en fait, j'ai découvert qu'il disparaît de sa biographie pendant 7 ou 8 années. En fait, on ne sait absolument pas ce qu'il est devenu. Donc, il se marie très jeune, il a 18 ans, avec une femme bien plus âgée que lui. Une première fille naît, ensuite les jumeaux, dont le fameux Hamnet avec un N. Et puis, tout d'un coup, on perd la trace de William. Il disparaît, et là, on sait qu'il n'est plus à Stratford-upon-Avon avec son épouse.
Comment ça, Hamnet avec un N?
Ah bah, c'est-à-dire que vous connaissez la pièce Hamlet.
Bien sûr.
Et son fils s'appelait Hamnet avec un N.
Je l'ignorais.
Voilà. Eh bien, il y a eu un livre d'une autrice anglaise, Maggie O'Farrell, qui s'appelait Hamnet, et qui raconte en fait l'enfance de ce garçon qui va mourir à l'âge de 13 ans. Donc la pièce sera écrite après. Après, évidemment, c'est aussi intéressant parce que c'est pas une pièce qui parle de la mort d'un enfant, qui parle de la mort d'un père, mais d'une certaine façon, il parle peut-être de son enfant aussi. Et voilà, donc pour tout dire que voilà, Shakespeare disparaît, et là c'est génial parce que tous les historiens, tous les spécialistes de l'époque élisabéthaine s'arrachent les cheveux, il y a des théories qui s'opposent les unes aux autres, il est devenu marin, il est parti en Italie, parce que plusieurs de ses pièces se passent en Italie. En même temps, dans une de ses pièces, il place Milan près de la mer, donc ce qui montre qu'il n'est peut-être pas vraiment allé sur les lieux. Il aurait chassé dans une forêt qui n'existait pas à l'époque. Enfin, on a envie de savoir, tout le monde a envie de savoir, et personne ne saura jamais. Et ça m'intéresse beaucoup, parce que je me dis, voilà, là, il y a un creux, il y a un pli de l'histoire, il y a un mystère. En fait, il n'y a que le romancier, la romancière qui pourra vous dire ce qui s'est passé.
Vous êtes intéressé à plusieurs périodes historiques différentes, ce qui crée aussi des atmosphères singulières dans chacun de vos livres. Mmh. Et vous vous dites dans une interview de 2015, si on m'obligeait à écrire un roman contemporain autour de ma petite vie, je serais complètement terrorisée. C'est le fait justement de, j'allais dire de se cacher, mais c'est pas se cacher, c'est le fait de planter un décor et d'imaginer une fiction qui vous permet justement de dire des choses vraies sur vous.
Oui, je pense qu'il faut qu'il y ait une ambition en fait. Pour moi, je pense qu'il faut que j'aille quelque part. J'aime beaucoup explorer. En fait, c'est ce que je cherche à faire dans mes livres.
Et vous vous confiez entre les chapitres.
Là, c'est avec William. J'ai commencé à créer des livres hybrides, mêlant à la fois l'histoire, la fiction et l'autofiction ou l'autobiographie. Et c'est un mélange assez étrange. Pour l'instant, ça fonctionne. Enfin, je constate que ça a l'air de fonctionner. Et ça m'intéresse beaucoup parce que j'aime aussi expliquer pourquoi je m'intéresse à ce personnage. Et je vais expliquer au lecteur. Et je vais donner aussi mon avis sur les personnages. Je vais lui dire, bah voilà, par exemple, Jeanne d'Arc, là, me paraît un petit peu agaçante. Même si je trouve que c'est une surdouée et qu'elle elle me bluffe complètement dans sa façon de parler, sa façon de répondre à des questions de théologien. Pour William Shakespeare, c'était... En fait, il a failli rater sa vie, il a failli passer à côté de sa vie. S'il était devenu ce qu'on attendait de lui, c'est-à-dire le bon petit-fils de bourgeois, marié avec enfant, il avait tout pour ne jamais devenir dramaturge, tout simplement parce qu'il faut en être, en fait. Il faut être du milieu pour être d'abord comédien et ensuite dramaturge. Il n'était même pas de Londres, il n'était même pas allé à l'université. Ce qui fait qu'à mon avis, les théories sur enfin, sa fausse paternité des œuvres peut naître de là. C'est-à-dire, on a imaginé qu'il n'avait pas assez étudié pour pouvoir écrire tout ce qu'il a étudié, tout ce qu'il a écrit, pardon. Et je pense que non, c'était lui aussi un surdoué, qu'il avait beaucoup appris déjà à l'école, et qu'à l'école, à l'époque, on apprenait beaucoup de choses, la rhétorique, on apprenait le latin, le grec, on apprenait les mythes, on voit tout ça dans ses œuvres. Non, il n'a pas eu besoin d'aller à Oxford ou Cambridge pour pouvoir écrire tout ça.
Pensez-vous qu'il y ait en vous quelque faute ou crime pour lequel, si vous le confessiez, vous puissiez ou deviez mourir?
Non.
Voulez-vous vous soumettre à l'Église?
Prenez garde, vous qui vous dites mon juge, vous assumez une grande charge.
Quelle preuve donnez-vous que vous ayez ces révélations de par Dieu?
Vous pouvez bien vous en passer.
Cela sert au procès.
Passez outre.
Croyez-vous être la grâce de Dieu?
Toute lumière ne vient pas que pour vous. On examine mes réponses. S'il y a quelque chose de mal, je ne soutiendrai pas le contraire.
Ce n'est pas à Dieu, fille corrompue, c'est au diable que tu appartiens.
1962, procès de Jeanne d'Arc de Robert Bresson pour nous mettre dans l'ambiance. Stéphanie Hochet, vous publiez Armure chez Rivage et vous cherchiez pour Armure une figure féminine emblématique ancrée profondément dans l'histoire. C'est Jeanne d'Arc, on parlera de l'autre après. Mm-hmm. Et vous dites à son sujet qu'on peut la considérer comme une icône féministe et que son appropriation par l'extrême droite est inacceptable.
Ah bah oui, ça n'a juste aucun sens. Déjà, c'est un anachronisme, donc ça n'a pas de sens. Mais en plus, la situation n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'elle s'oppose à une armée d'occupation. On pourrait plutôt la comparer à Jean Moulin, pourquoi pas. Donc le jour où l'extrême droite décidera de prendre Jean Moulin comme figure iconique, j'espère bien qu'on va se battre pour que...
Ça peut venir en vue
les choses. Il faut toujours résister à ça, quoi.
La documentation aussi a été colossale pour ce livre.
Alors, à partir du moment où je me suis dit... Alors, dans un premier temps, je me suis dit, est-ce qu'elle va me plaire? Parce qu'il fallait quand même que je sache si j'allais pouvoir écrire sur elle. Donc, j'ai commencé à me documenter, lire des livres d'histoire, écouter des historiens, etc. Et quand je suis arrivée, en fait, aux minutes du procès, etc., là, je l'ai trouvée absolument fascinante. En fait, c'est sa façon de parler qui m'a complètement sidérée. D'ailleurs, là, dans Robert Bresson, en fait, ce sont ses vraies paroles, en fait, lors du procès. C'est-à-dire qu'elle avait un sens, on va dire, une intelligence, une éloquence. Elle s'est défendue toute seule, sans avocat. Et il n'y a pas qu'au procès qu'elle a sidéré tout le monde. Parce que, en fait, elle est interrogée par plusieurs théologiens avant même d'arriver devant le roi. Il faut qu'elle prouve qu'elle est digne d'être écoutée et que ses voix viennent de Dieu et non du diable. En fait, c'est toujours ça le problème.
Le corps aussi est examiné par des matrones.
Ah ouais, parce que quand on parle de la pucelle, c'est pas métaphorique. Il faut vraiment qu'elle soit vierge. C'est là que j'ai découvert qu'elle avait été effectivement auscultée par des matrones. Donc bon, c'est assez amusant parce qu'on se dit on est en plein délire quand même.
Oui, elles peuvent même la dépuceler.
Bah,
en
oui,
examinant.
En fait, de toute façon, c'est très difficile apparemment de constater la virginité de quelqu'un. Il y a des petites filles qui naissent sans hymen. Enfin, il y a plein de. Je pense qu'un gynécologue pourrait bien expliquer tout ça. C'est qu'en fait, on est sur plus du fantasme en fait. Et puis quelque chose qui va tenir le corps de la femme en fait. Et puis la rendre sale si jamais elle n'est plus dans cet état.
Ça, on va évidemment revenir à cette idée qui est très très forte. Il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet. Il y a évidemment des choses que vous partagez avec elle. Elle est alors là, je vais dire des choses comme ça, mais comme elles sont dites à son sujet, d'accord. Elle est issue du peuple. Tout à l'heure, vous en parliez, c'est pour ça que je me permets de revenir dessus. Votre père était électricien et mère infirmière, mais votre mère lisait beaucoup, elle vous a transmis ça.
Oui, elle vient d'un milieu qui est assez littéraire, quoi, quand même.
À l'âge de 3 ans, vous avez fait une fugue.
Oui, j'ai fait une fugue à l'âge de 3 ans. Alors, je suis rassurée parce que je ne suis pas la seule. J'ai découvert que d'autres personnes ont fait des fugues à l'âge de 3 ans. Oui, mais je me souviens bien d'avoir poussé le portail qui était toujours ouvert, d'avoir pris aussi mes affaires, en fait, des mouchoirs, des choses comme ça dans mon petit sac, et puis d'avoir décidé de partir. Et je me suis dit, voilà, il est temps de faire ma vie. Et je sais pas, je suis partie peut-être 10 minutes, mais j'étais rattrapée par des voisins qui se demandaient ce que je faisais là.
Est-ce que Jeanne d'Arc fait le mur la nuit pour faire du cheval?
Alors, moi, je l'ai imaginée comme moi, là. Je l'ai imaginée fugueuse. On n'a aucune pièce de preuve pour dire qu'elle sortait la nuit, etc. Mais je l'ai imaginée. J'ai imaginé qu'elle avait eu besoin de fuguer. Et puis, bon, c'est quand même un grand départ. Hein, qu'elle fait à l'âge de 17 ans, elle va partir. Elle s'arrache totalement à son milieu familial. C'est pas rien, quoi. Elle décide vraiment de plus avoir affaire avec eux. Hein. Enfin, je pense que d'ailleurs, elle les revoit pas, d'ailleurs.
Il y a cette notion, cette idée d'affranchissement, en tout cas, qui m'a fait penser à vous et aussi l'apparence physique. C'est-à-dire que vous la décrivez comme un être qui n'a pas un physique d'homme ni de femme, qui ressemble à un jeune page, et vous vous identifiez adolescente.
Oui, alors quand j'avais 13 ans, mais même vers entre 10 et 13 ans, je ressemblais vraiment à un garçon en fait. Et parfois, bon, c'est vrai que j'allais dans une boulangerie, bonjour jeune homme, ce sera quoi, etc. J'avais même eu des réflexions au collège quand j'allais dans les toilettes des filles, on se demandait ce que je faisais là, etc. Donc c'est une petite expérience particulière, quoi. Mais voilà, donc bon, après on peut se demander pourquoi elle a absolument voulu. À la fois se couper les cheveux à la manière des hommes, c'est-à-dire en cercle, hein, au-dessus des oreilles, et porter un habit d'homme. Enfin, c'était aussi pour sa protection, et puis aussi pour qu'on la considère comme un chef de guerre, quoi. Ça a bien marché.
Ça a bien marché, c'est assez fascinant, mais ce sont aussi les hommes qui vont la trahir. Il y a une tentative de viol sur elle que vous décrivez, et il y a aussi des pensées comme si seulement j'étais née homme. Est-ce que ça, vous l'avez inventé? Vous êtes mis dans sa tête ou vous avez vu des réflexions de sa part
Dans la prison.
Sur sa condition de femme.
Sa condition de femme, sa condition de pucelle, déjà, elle doit la protéger. C'est très important. En fait, elle prétend que Saint-Michel lui a demandé de rester vierge et de sauver le royaume de France qui est en grande pitié, etc. Pour elle, elle tient énormément à sa virginité. C'est comme ça qu'on va peut-être la respecter aussi. C'est qu'elle se fera respecter des hommes si elle reste vierge, quoi. Donc, il y a aussi une prophétie qui dit que le royaume de France qui a été perdu par une femme sera regagnée par une pucelle. Donc, elle connaît tout ça.
Elle se fait quand même insulter. Vous mettez en bas de page
par les Anglais.
Alors, incroyable.
Les Anglais, ils vont. Alors, tout y va. C'est putain public, putain privé, putain des Armagnacs, Vachère, Ribaude, etc. Et enfin, voilà. Donc,
Folgar, c'est déloyal sorcière.
Mais déloyale sorcière.
Ce qui frappe, c'est putain. C'est-à-dire, pucelle et on la traite le plus souvent de putain.
Oui, mais moi, ça m'étonne pas tellement parce que, on va dire, la caractéristique. On va dire des femmes, c'est d'être toujours soit placées du côté de la pute, soit de la maman. Enfin voilà quoi, c'est dans beaucoup de psychés humaines, il reste encore ça.
Alors, tout à l'heure, dans l'introduction, je posais une question dont j'avais évidemment la réponse. Est-ce que les choses sont aussi simples? Est-ce qu'il y a la sainteté, la perversion? Évidemment pas. Et vous dépeignez une Jeanne complexe. On va s'interroger au second personnage dans un instant. Mais pour rester sur Jeanne, elle est héroïque et elle devient aussi insupportablement donneuse de leçons.
Ah oui.
Elle est rigide moralement, elle réprimande violemment des soldats jurant ou les prostituées qui suivent les troupes.
Oui.
Et vous dites, la sainteté est un délire. Jeanne d'Arc était une folle de la pureté.
Ouais, ça c'est des choses vraies, hein, ça, qu'elle allait... En fait, elle poursuivait les prostituées, elle les frappait du plat de son épée.
Oui, ce n'est pas très cordial.
Non, vraiment, elle les chassait. Et pour les hommes, vraiment, elle les reprenait. Donc en fait, il faut imaginer quelqu'un d'à la fois assez génial et en même temps un peu agaçant, quoi. Et ça la rend humaine, en fait, de voir ses défauts. Elle est, de toute façon, pour que je m'attache à elle, pour que je parvienne à la décrire et même à écrire à la première personne, il fallait qu'il y ait une proximité, il fallait que je la sente vivante et assez proche de moi, de même que... Enfin voilà, je me suis interrogée sur le début du roman, comment est-ce que j'allais entrer dans le roman, et je la fais entrer sur le cheval, en fait, sur son cheval.
Avec lequel elle fusionne.
Elle fusionne avec son cheval parce qu'elle a tellement peur de tomber qu'elle sent qu'elle doit devenir elle-même le cheval, c'est-à-dire une espèce de centaure, en fait. Elle va apprendre à faire du cheval très rapidement, elle va être assez douée, en fait, elle tombera pas... De même qu'elle va être très très courageuse, elle est vraiment admirable. Pourquoi est-ce qu'elle a décidé d'attaquer Orléans? On ne sait pas bien, mais c'était la bonne ville à prendre. Enfin, ça c'est assez stupéfiant, quoi. Parce que c'était effectivement la ville importante tactiquement à récupérer. Il y a plein de choses étranges chez elle.
Et vous remettez en question la véracité de ses visions?
Alors, moi, ce qui me plaît, c'est d'imaginer qu'elle avait des doutes. Et je pense que, comme beaucoup de gens qui ont la foi, elle avait des doutes. Beaucoup de gens qui ont la foi m'en ont parlé. Moi, je n'ai pas la foi, donc la question ne se pose pas. Mais il me semble que c'est intéressant, quand on croit, de parfois se demander si vraiment on est dans le vrai. Et si, voilà, c'est j'imagine qu'elle a des doutes. J'imagine aussi qu'elle a peut-être menti. En fait, je cherche les interprétations. Tout est possible. Tout est possible. Elle a peut-être menti. Mais il fallait que ça existe. Il fallait que ces voix existent. Il fallait qu'elles viennent. La formule, c'est Depardieu. Il fallait qu'elle ait la caution divine pour pouvoir s'imposer auprès de ces hommes et auprès du dauphin. Si elle avait montré le moindre doute, eh bien, elle était chassée, renvoyée. Et puis voilà, elle sortait plus de chez elle. Elle continuait de coudre et compagnie.
D'ailleurs, on apprend sous votre plume que beaucoup de femmes faisaient croire qu'elles entendaient des voix pour rencontrer le dauphin.
Eva Bester, la 20e heure sur France Inter.
Stéphanie Hochet, vous publiez « Armure chez Rivage » qui s'ouvre sur cette phrase. Un couple qui m'a toujours été familier avec cette étrange grâce d'avoir lié la sainteté à la perversion. Bon, alors moi, je me suis immédiatement dit qu'il s'agissait de vos parents. Sainteté et perversion, je me suis aussi dit, n'est-ce pas le mélange qu'il y a en chacun de nous? Et vous prêtez à la mère de Jeanne d'Arc des traits de la vôtre, la brutalité, le mépris. La question est la suivante, est-ce que le fait de placer ses parents dans la fiction pour leur donner un aspect archétypal, comme l'ogre pour le père, permet que ce qu'il représente vous assaille un peu moins dans le réel?
Oui, et puis, alors je ne savais pas à quoi ressemblait la mère de Jeanne, donc j'ai pris ce qu'il y avait de plus proche et de ce qu'il y avait de disponible.
C'était là très disponible, les parents.
C'était très disponible. Et je me dis que, voilà, dans... quand les gens sont terriblement vertueux, ils en arrivent à être un petit peu monstrueux. Et que peut-être que sa mère avait cet aspect-là aussi.
Il erre dans les forêts qui entourent Tiffauges. Il sanglote en marchant, écarte éperdu les fantômes qui l'accostent, regarde et soudain il voit l'obscénité des très vieux arbres. Il semble que la nature se pervertisse devant lui et que ce soit sa présence même qui la déprave. Pour la première fois, il comprend l'immuable salacité des bois. Des images l'effarent. Il revoit les peaux garçonnières, les peaux du blanc lucide des parchemins dans les écorces pâles et lisses des longs hêtres. Partout, les formes obscènes montent de la terre, jaillissent en désordre dans le firmament qui se satanise. Les nuages se gonflent en mamelons, se fendent en croupes, s'arrondissent en des outres fécondes, se dispersent en des traînées épandues de laites. Ils s'accordent avec la bombance sombre de la futaie, où ce ne sont plus qu'images de cuisses géantes ou naines, que triangles féminins, que grands V, que bouches de Sodome, que cicatrices qui s'ébrasent, qui suent humides.
Là-bas de Huysmans, lu par Christophe Billet sur France Culture en 2003. Stéphanie Hochet, ça faisait longtemps que Gilles de Rais, seigneur de Montmorency, vous intriguait. Il fut le compagnon d'armes de Jeanne d'Arc. Vous le rendez un peu amoureux d'elle, malgré sa préférence pour les hommes. Et c'est un être à la fois pieux, sataniste, sadique, et disons-le sans embâge, un violeur et un meurtrier trouvant le comble de la volupté sexuelle dans la torture d'enfants. Huysmans lui a consacré un roman, Là-bas, dont vous mettez un extrait. Vous avez d'ailleurs intitulé un chapitre À rebours, autre chef-d'œuvre de Huysmans. Et j'imagine évidemment que dans votre soif de savoir, vous avez lu ce que vous évoquez, le Michel Tournier et les autres, Michel Ragon,
Il y a quelques auteurs qui ont écrit sur le lien entre Gilles et Jeanne, donc Michel Tournier, Michel Ragon, puis voilà, il y a Huysmans qui parle merveilleusement bien de Gilles de Rais. Et bien sûr que je me suis imprégnée de ces lectures, parce qu'il fallait que ça passe par cette lecture-là, par toutes ces lectures-là, pour qu'ensuite ça se transforme en quelque chose d'autre, que je me suis permis d'écrire. Gilles de Rais, c'est un personnage qui me hante, en fait, depuis très très longtemps. Et je n'avais même pas conscience qu'il me hantait.
Pour des raisons peut-être généalogiques et géographiques, mais je ne suis pas sûre de tout devoir dévoiler.
Exactement.
Voilà. Mais parlez-nous un peu de ce Gilles de Rais, parce que ce qui est très intéressant, tout à l'heure je disais que moi je tiens toujours à la nuance, à la complexité. Je n'aime pas les choses binaires.
Ouais.
Et en fait, il est très pieux. Il est amoureux de Jeanne, et avant la mort de Jeanne, il ne commet pas de crime.
Avant la mort de Jeanne, mais même c'est un héros, c'est un grand combattant. Il apporte des troupes aux dauphins, il apporte de l'argent, il est un grand guerrier, il est maréchal à 25 ans. C'est le plus jeune maréchal de France. J'ai envie de dire, c'est presque De Gaulle, quoi. C'est la réussite totale. Après les batailles, après la mort de Jeanne, on ne sait pas s'il a tenté d'intervenir ou pas, mais après la mort de Jeanne, il revient sur ses terres, qui sont immenses. Il revient surtout dans son château de Tiffauges. Il a plusieurs châteaux, mais c'est surtout à Tiffauges qu'il aime s'installer. Et bien là, il va commettre des choses épouvantables. Alors, il se trouve qu'en plus, il a tendance à aimer le luxe. Donc, il va organiser des grandes fêtes, etc. Il va perdre énormément d'argent, alors qu'il était riche, il va perdre énormément d'argent. Et puis un jour, il va falloir rembourser. Et puis là, il va tenter de trouver des moyens de créer de l'or, de l'argent, etc. Il va étudier les grimoires,
l'alchimie,
etc. Il va se faire aider d'un sorcier italien. Et puis, au même moment, en fait, il fait kidnapper des garçons entre 8 et 12 ans. Et il les torture, il les tue, en fait. On sait que c'est un tueur en série, avec le nombre de morts, c'est-à-dire on estime, d'après lui-même, c'est 140. On n'aura jamais le chiffre total, mais c'est des années et des années de torture et de démence criminelle.
Il mourra par le feu aussi, comme Jeanne, mais avec un privilège, parce que c'est un homme.
Parce qu'il est un aristocrate, surtout.
Oui, c'est-à-dire qu'il souffrira un peu moins au bûcher, mais pareil, je laisse les lecteurs découvrir ça en vous lisant. Et j'aimerais qu'on parle d'une de ses caractéristiques qui traverse d'autres de vos livres, Stéphanie Hochet, c'est l'homosexualité, parce que vous parlez de la violence que cela peut provoquer, et j'aimerais bien que vous nous disiez un mot sur l'un de vos cousins. Ou vos deux cousins, comme vous voulez.
Oui, alors, j'avais deux cousins, ils sont morts tous les deux.
De mort violente
Oui, de mort violente, tous les deux. Et tous les deux étaient homosexuels, et tous les deux ont été violés. Et tous les deux donc, sont des cousins du côté de ma famille paternelle. Voilà, en plus, y en a un que je connaissais très bien. Enfin, en fait, je connaissais très bien les deux. Il y en avait un qui avait mon âge. Il est mort à l'âge de 20 ans. Il a été retrouvé sur une route en Bretagne. On ne sait pas comment il est mort, ce qui lui est arrivé. Moi, j'avais le même âge que lui. C'est un grand mystère. Et puis après, Thierry, lui, s'est suicidé il y a juste 10 ans. Et lui, j'ai vu qu'il a été véritablement mis à mort par le harcèlement, l'humiliation continuelle de son père. C'était absolument insensé à voir. Et j'étais témoin. J'ai été témoin. Donc je l'ai vu. Et puis après, j'ai appris qu'il avait subi cet inceste. Voilà. Donc il y a évidemment du très très sombre dans cette famille, qui peut-être me permet d'aller du côté de Gilles Deray pour essayer de trouver un peu de lumière dans cette noirceur, et en tout cas de m'intéresser à ces personnages qui font assez peur, quoi. Parce que bon, beaucoup de gens ne connaissent pas vraiment Gilles Deray ou pensent que c'est une légende, hein. Pensent qu'il n'a pas existé, ou voilà. Ça m'arrive de rencontrer des gens qui ne le connaissent pas bien. Jeanne d'Arc, tout le monde la connaît, mais lui, on le confond aussi avec Barbe Bleue, mais enfin, c'est quand même un autre niveau, là. Barbe Bleue tue 4 femmes.
Barbe Bleue.
Ouais, un petit joueur.
Ouais, c'est sûr.
Il fait plus penser à Henri VIII d'Angleterre, en fait. Non, Gilles de Rais, c'est le mal absolu. En fait, on pourrait dire c'est le mal absolu qu'a rencontré dans l'histoire la sainteté.
Exactement, mais ça vous en parliez. Et il y a notamment une autre figure sainte au début, donc c'est celle de votre mère, qui est aussi très violente et qui associe l'homosexualité à la honte.
Ah oui, ah oui, oui, oui. Moi c'était, quand je lui avais dit pour moi, c'était, tu n'en parles pas, ça reste entre nous.
Donc le silence à nouveau, déjà que votre père vous imposait en voulant faire taire sans cesse.
Ça reste entre nous, et puis d'abord qu'est-ce que t'en sais ? Ok. oui, ben, de toute façon, je ne suis pas devenue autrice et écrivaine pour rien. Enfin, je veux dire, je connais cette loi du silence, et je pense que l'écriture, c'est une façon de parler beaucoup plus fort et de reprendre le pouvoir par les mots. Ce n'est pas uniquement le pouvoir pour le pouvoir, c'est aussi de créer des liens autrement.
Vous dites que l'idée du suicide vous a souvent traversé. Qu'en est-il aujourd'hui ?
Ah, mais toujours, de temps en temps, j'y pense. Je fais pas de passage à l'acte, mais c'est une pensée qui parfois presque me soulage quand je me dis, voilà, dans des moments de détresse absolue, je me dis, il y a toujours une porte de sortie, en fait. Faut pas oublier qu'il y a une porte de sortie.
Thank you. Giovanna d'Arco de Verdi par la soprano Anna Netrebko. Stéphanie Hochet, vous publiez Armure chez Rivage sur Jeanne d'Arc et Gilles de Rais. Et il y a l'atmosphère qui va avec et le vocabulaire qui va avec. Et il y a deux phrases, deux expressions qui m'ont frappée. Une récurrente, ils ne savent ni leur A ni leur B.
Ouais.
Et aussi onc pour jamais, oui. O-N-C-Q-U-E-S.
Oui, oui, c'est l'expression de l'époque pour dire qu'elle est illettrée, en fait, qu'elle ne sait pas lire et écrire. Elle dit « je ne connais ni mon A ni mon B ». C'est une expression qu'il y avait à l'époque. Et c'est vrai que onc, ça veut dire jamais, quoi. Je pense que c'est du latin, il me semble. Enfin, voilà, quoi. C'était utilisé en tout cas au Moyen-Âge. Donc de temps en temps, j'utilise un petit peu les mots de l'époque.
Comment vous faites ? Vous avez consulté un ouvrage précis ?
Oui, bah, je suis tombée sur plein de choses. Hein. Je suis tombée sur ces dialogues, enfin sur ces voilà les minutes du procès, etc. Et voilà, il y a quand même beaucoup de documentation sur elle. Je crois qu'elle est, il y a autant de documentation sur Jeanne d'Arc que sur le Christ. C'est
impressionnant.
Ouais.
Jeanne Moreau, India Song.
France Inter. La 20e heure. Eva Bester.
Oh,
Billie Eilish, The Love of My Life. C'est votre choix musical, Stéphanie Auchet.
Oui, alors j'adore, je la connais pas depuis si longtemps que ça, je la trouve géniale, aucune chanson ne se ressemble, celle-là est juste magnifique, et puis en plus on a l'impression que c'est une chanson d'amour alors qu'elle dit le contraire.
Je vous ai demandé une découverte aussi, et alors vous voulez nous parler de l'exposition consacrée à Artemisia Gentileschi, figure majeure de l'art baroque, Artemisia, héroïne de l'art au musée Jacques Marandré jusqu'au 3 août prochain.
Ah, c'est magnifique, c'est tellement génial ce qu'elle a fait. En fait, c'est le Caravage au féminin, en fait. Elle était fille d'un peintre et elle avait subi un viol. Elle avait été violée par un proche de son père. Et elle a représenté les traits de son violeur dans quand elle a peint Holoferne, dans Judith et Holoferne.
Donc la tête coupée dans l'assiette.
Voilà, on voit que Judith se met à lui couper la tête et Holoferne a les traits de son violeur. Et ce qui est très beau chez elle, c'est que les femmes qui agissent de cette façon le font avec une espèce de grand calme et de sérénité. Il y a quelque chose d'assez fabuleux. Parfois, on a l'impression qu'elles ont juste les joues légèrement rosacées, qu'elles ont un petit peu de plaisir, mais elle est hallucinante. Puis avec ce jeu de lumière, dans le style du Caravage, quoi, dans le style assez violent, et en même temps avec une douceur folle, quoi. C'est très beau.
Dans l'introduction de l'émission, j'ai cité un roman anglais, oui, dans lequel vous abordez le climat pendant la Première Guerre mondiale en Angleterre, une période avec laquelle vous étiez déjà très familiarisée, puisque votre père était obsédé par 14-18, et ouais, que vous aviez déjà, vous, visité Verdun et ses environs il y a plusieurs années.
C'est vrai.
Vous avez une fascination aussi pour les périodes de guerre ?
Ah, je suis totalement fascinée, mais plus par la Deuxième Guerre mondiale, puisque là, on approche du mal absolu, et je cherche toujours à essayer de comprendre, y compris en regardant des documentaires sur tel ou tel barbare qui a sévi dans les camps, etc., qu'on a retrouvé, et qui avait une vie très, très calme et très bourgeoise aux États-Unis. Ça me fascine totalement. Alors, la Première Guerre mondiale, oui, j'en ai parlé. Et oui, j'en ai parlé aussi dans mes livres, mais après pour les romans, je trouve que c'est très intéressant aussi parce que c'est des accélérateurs, c'est des révélateurs. À partir du moment où vous avez imaginons l'occupation, les gens se révèlent en fait, quoi. On sait qui sont les salauds, on sait qui sont les gens qui vont être un peu des héros ou des justes. C'est passionnant cette période-là.
C'est ce qui vous a intéressé dans le journal de Virginia Woolf?
Alors, le journal de Virginia Woolf, oui, le journal de Virginia Woolf, c'est intéressant parce que elle raconte en fait le quotidien qui est le sien pendant la Première Guerre mondiale. Et on découvre qu'en fait, on n'imaginait pas, mais elle vit avec des domestiques, etc. Enfin, on voit une vie un peu de tous les jours. Et on découvre aussi qu'ils sont partis de Londres, parce que ce qu'on sait moins souvent, c'est que Londres a été bombardée également pendant la Première Guerre mondiale. Et là, Virginia Woolf avec son mari vont s'installer à la campagne. Ils vont écrire. Il y aura cette maison d'édition, la Hogarth Press, etc. Mais c'est déjà un premier acte. Enfin, c'est déjà une première violence qu'elle connaît, en fait, Virginia Woolf, qui en a connu aussi beaucoup dans son enfance et dans son adolescence, puisqu'elle a été victime d'inceste de la part de cousins, etc., enfin, de viol, etc.
Ça revient dans les figures auxquelles vous avez citées dans l'émission.
Oui. Puis en plus, j'ai une admiration totale pour Virginia Woolf, parce que j'adore son humour, en fait. Elle a un humour anglais assez typique. C'est-à-dire, on a l'impression qu'elle ne rit pas, et en fait, c'est très drôle. Et puis, bon, si on prend par exemple son essai, une chambre à soi, il y a des passages absolument irrésistibles. Très drôle, quoi.
Bon, alors, on a beaucoup parlé d'Angleterre, évidemment, c'est facile avec vous, Stéphanie Auchet, mais vous appréciez aussi beaucoup les auteurs japonais, comme Mishima Kawabata, ou Soseki, ouais, mais surtout Mishima. Est-ce que vous avez vu le film de Paul Schrader sur Mishima?
Ah non.
Il est très beau, mais, ouais, mais peu compris.
Ouais, okay,
j'adore Schrader,
ça m'intéresse alors.
Je le recommande.
Ça me tente tout de suite.
Oui. Vous pouvez nous en dire un mot et nous donner quelques recommandations de lecture?
Pour Mishima, je dirais Le Pavillon d'or et Confession d'un masque, son tout premier livre, où va révéler son homosexualité.
Ouais. Remarque.
Oui. Et d'ailleurs, il avait fait il a écrit une nouvelle qui s'appelle Patriotisme, où il raconte en fait l'histoire d'un capitaine de l'armée japonaise qui rentre après une défaite et qui décide donc de faire seppuku. Et sa femme, qui l'attend, va faire la même chose.
Et c'est beaucoup, c'est le vrai terme pour harakiri, pour ceux qui ne le savent pas.
Ouais, c'est ça. Et sa femme donc limite le suit dans la mort, et il a même eu le sadisme d'en faire un film qui est très dur à regarder, je préviens tout de suite.
Pas parce qu'il est mauvais ou parce qu'il est cruel?
Ah, parce qu'il y a tous les détails. Vous avez tous les détails, l'éventration, etc. Vous avez la sueur sur le visage. Il s'est vraiment suicidé comme ça, par une espèce de délire nationaliste. Mais il savait vraiment à quoi s'attendre. Sauf que dans les faits, en fait, ça a totalement raté. Parce que lui, il avait bien agi, mais l'homme qui devait lui couper la tête a dû s'y reprendre à deux fois.
Parce qu'il y a toujours un procédé dans le seppuku. Enfin, je le sais pas parce que j'ai traîné avec des gens qui l'ont fait, mais parce que j'ai lu un livre, ça me passionnait il y a longtemps. Ouais. Et en effet, il y a le meilleur ami qui est à côté et qui doit couper la tête à partir de la nuque et laisser, s'il est très bon à la lame, un lambeau de peau devant pour que la tête pende.
Voilà,
Là, il a dû le faire deux fois.
Ah oui, parce que je crois que le premier coup partait sur les épaules, donc il était très nul.
J'espère que personne ne dîne pendant qu'on...
je crois que c'était son amoureux, mais bon, voilà, c'était peut-être pas la bonne personne.
Non, peut-être pas. Peut-être que souvent, ça peut être la conclusion, souvent l'amoureux n'est pas la bonne personne.
Exactement.
Une dernière recommandation en un titre, sans explication, n'importe quel titre.
En fait, je suis en train de lire le livre de Johann Svar, Que faire des Juifs, et j'apprends énormément de choses, donc vraiment, lisez-le. Vous allez apprendre beaucoup de choses.
Merci beaucoup Stéphanie.
Merci à vous.
Votre dernier récit, Armure, est paru chez Rivage, tout comme l'édition poche de William. Vous serez à la fête du livre à Triel-sur-Seine le 7 juin prochain, le 14 et 15 juin au Salon du Livre de Vannes, les 5 et 6 juillet au Salon du Livre historique de Levallois et le 13 septembre à la Maison de Jeanne d'Arc à Saint-Fargeau en Bourgogne. Et la tournée continuera à Villeneuve-sur-Lot, Lille et Tours. Cette émission a été réalisée par Mathias Volant, préparée par Céline Villegas, Louise Morfouas, Betty Algret et Franck Olivar. À la programmation musicale, Juliette L'Orphelin, à la technique, Thomas Allard.